Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Toute la liturgie d'aujourd'hui, vous avez peut-être déjà pu remarquer par les quelques textes, l'introïte, l'épître, graduel, alléluia, l'évangile, eh bien nous inculque la vraie notion d'humilité chrétienne, qui consiste à attribuer toutes les grâces au Saint-Esprit. À notre sainteté aussi doit être attribuée au Saint-Esprit. Vous avez pu le remarquer dans cette magnifique épître où saint Paul nous fait comprendre que tout, même le fait de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est Sauveur, c'est une grâce du Saint-Esprit. En effet, nos actes ne sauraient être surnaturels que s'ils procèdent du Saint-Esprit. Dans cette parabole, vous venez d'entendre, notre Seigneur nous propose ces deux types d'hommes, et cela afin de nous enseigner à ôter de nos âmes les sentiments qu'animait ce pharisien, sentiment d'orgueil, et à imiter l'attitude de ce publicain. Arrêtons-nous donc un peu sur ces deux personnages que notre Seigneur nous présente. Tout d'abord, regardons un peu ce pharisien, son attitude. Ce pharisien croit avoir atteint la plus haute perfection. Il est satisfait de lui-même. Alors, il ne demande rien à Dieu dans sa prière. Il ne demande ni pardon de ses péchés, il ne demande non plus pas la persévérance et l'avancement dans la vertu. Il ne se croit pas avoir besoin de le demander, puisqu'il est arrivé à ses propres yeux au haut de la perfection. Et aussi, il ne le fait pas parce qu'il se dit que la miséricorde divine et le secours du ciel ne lui était pas nécessaire. Et de plus, dans sa prière, sous prétexte de reconnaissance envers Dieu, il se loue lui-même et relève avec complaisance le mérite de ses bonnes œuvres. Il ne rend grand ce Seigneur que du bout des lèvres, mais au fond du cœur, il s'attribue toute la gloire à lui-même. Dans sa prière d'ailleurs, il pense beaucoup plus à lui-même qu'à Dieu. Ce pharisien se préfère au reste des hommes. Il s'estime le meilleur et le plus vertueux de tous. On dirait qu'il est juste par excellence. Il exalte, outre mesure, le bien qu'il fait, quoique ce bien soit assez vulgaire. Cela vient de ce qu'il compare ses bonnes œuvres avec les péchés des autres. Au lieu de comparer, comme il devrait, les bonnes œuvres des autres avec ses péchés. Et d'ailleurs, il ne se glorifie que de quelques actions extérieures. Voilà. Comme le jeûne, comme le fait de payer sa dîme. En fait, il nous montre que ce qu'il a comme but, c'est de se faire estimer du monde, de paraître ce qu'il n'est pas, de paraître sans être. Il ne songe pas à son âme souillée. Et c'est bien juste ce que disait Jésus de ces pharisiens. Ils sont des sépulcres blanchis. Un sépulcre blanchi est tout beau à l'extérieur, tout propre. Et à l'intérieur, eh bien, c'est la corruption, il est souillé. Mais c'est un peu l'état de ces pharisiens. Extérieurement, ils paraissent, ils brillent, et intérieurement, ils sont corrompus. Ils sont pleins de malice. Voilà. Enfin, la dernière marque de son orgueil, c'est qu'il méprise tous les hommes en général, et bien sûr en particulier ce publicain, qui prie en même temps que lui dans le temple. Il le juge témérairement, en le regardant comme un homme pécheur. Voilà, mes bien chers fidèles, ce que notre Seigneur veut nous enseigner et où mène l'orgueil, ce qu'est l'orgueil de ce pharisien. On peut remarquer que le pharisien se trompe lui-même. Il est aveuglé. L'orgueil est comme la poutre qui est dans notre œil et qui nous empêche de nous voir nous-mêmes. Ce pharisien se trompe sur son propre compte. Il ne se connaît pas. Par contre, il a une vue perçante pour découvrir ses propres, les biens qu'il s'attribue mais qui ne sont pas de lui et qu'il n'a même pas, qui n'ont aucune valeur. Et aussi le défaut du prochain. Il s'estime juste, il s'estime bien, suffisant. Alors, il commence à critiquer les autres. Tandis que le publicain, lui, comme dit notre Seigneur, se tenait éloigné. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il s'estime indigne de s'approcher de Dieu et même indigne de s'approcher du pharisien pour prier. Alors il demeure au bas du temple. Il s'estime comme le dernier de tous. Il craint de lever les yeux vers le ciel. Il est persuadé qu'il n'a droit à aucune récompense du Seigneur et que ses œuvres ne méritent pas de paraître devant lui. Aussi, il est rempli de honte, de confusion, et ses regards se tiennent rattachés à la terre. Il se frappe la poitrine pour témoigner la douleur intérieure qu'il ressent de ses offenses et le désir qu'il a de les expier dans sa chair. Ce publicain réunit les trois parties d'une pénitence sincère. La première, eh bien, c'est un cœur contrit. Oui. La deuxième, une humble confession de ses péchés. Voilà. Ayez pitié de moi, je suis un pécheur. Et la troisième partie, eh bien, c'est ta satisfaction, telle qu'il peut la faire en cette circonstance. Il demande à Dieu pardon, comme s'il était le seul pécheur qu'il y eût sur la terre. Il ne juge mal de personne, pas même de ce pharisien qui pourtant le regarde avec dédain. Il ne le juge pas mal. Au contraire, il se juge encore pire que lui. Mais aussi, il est animé d'une confiance entière en la miséricorde de Dieu. Et de ce fait, il se contente de lui adresser une courte prière. Il sait que ces courtes paroles suffisent pour rendre Dieu propice. Pour qu'il nous exauce, il n'a pas besoin de longs discours. Eh bien, cette vertu d'humilité est précieuse. Elle nous enseigne à aimer Dieu, à se confier en lui, à le respecter, à ne mépriser personne, à se regarder comme le dernier de tous. Et, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la vertu d'humilité, c'est la vérité. Ce n'est pas se tromper. Et notre Seigneur, eh bien, nous donne la sentence, voilà, de ces deux prières. Lui, notre Seigneur, qui sera le souverain juge, lui, il ne s'arrête pas à l'extérieur, il ne s'arrête pas à ce qui brille, comme les hommes le font si facilement, comme nous. Mais lui, il va jusqu'au fond des cœurs, il pénètre ces cœurs, il sonde même les intentions. Il va jusqu'au principe des œuvres, et alors il les condamne ou les justifie, d'après les dispositions intérieures de chacun. Alors nous pouvons admirer cette puissance de l'humilité. Combien elle est agréable à Dieu. Parce que, en un moment, elle a rendu saint un pécheur public. Celui-ci est rentré justifié. Et tandis que l'orgueil est détestable et pernicieux aux yeux de Dieu, car en un moment, Elle a rendu celui qui était juste aux yeux de la loi, qui observait toute la loi juive, eh bien, elle le rend pécheur, grand pécheur, tandis que celui-ci n'est pas rentré justifié. La raison est que l'orgueilleux s'attribue à lui-même ses vertus. Et il les détruit par une vaine complaisance. Dieu humilie ce qui s'est élevé, parce qu'il s'est exalté, il s'est élevé. Mais l'humble, lui, ne s'attribue que ses péchés, et il les efface par son repentir. Et alors Dieu le relève, parce qu'il s'est humilié. Voilà, mes bien chers fidèles, c'est une leçon pour nous, parce que, au fond de notre âme, il y a toujours cette racine de l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer et tous ses démons du ciel en enfer. C'est l'orgueil qui a fait tomber nos premiers parents. Et donc, nous sommes blessés par ce vice de l'orgueil. S'il n'y avait pas eu d'orgueil, il n'y aurait pas d'enfer. S'il n'y avait pas eu d'orgueil, il n'y aurait pas de mal. Ça n'existerait pas, le mal. Nous serions toujours au paradis terrestre. Alors, nous sommes toujours guettés par cette tendance. Voyez, notre âme est toujours portée à ce désordre vis-à-vis de nous-mêmes, à se faire des illusions sur nous, à se prendre pour ce que l'on n'est pas. Non. Il faut que nous nous considérions, que nous nous exercions à nous considérer ce que nous sommes au regard de Dieu. Et comme dit saint Paul, tout ce que nous avons de bien en nous vient de Dieu. Et alors, si tout cela vient de Dieu, de quoi nous en glorifier? C'est comme si ça nous a été prêté, ça ne vient pas de nous. Même si nous faisons des bonnes œuvres, il ne faut pas nier, il ne faut pas dire que nous n'avons pas fait de bonnes œuvres, mais il faut renvoyer à Dieu. C'est grâce aux vertus, c'est grâce aux qualités que le bon Dieu nous a données. Tout ce qu'il y a de bien en nous vient de Dieu. Et ce qui vient de nous, c'est le péché, c'est les obstacles que nous mettons à l'œuvre de Dieu, au plan de Dieu, aux inspirations du Saint-Esprit. Alors, voilà l'attitude que nous devons avoir. L'attitude de vérité. Ce n'est pas se tromper. Eh bien, des fois, il nous faut demander cette grâce à la Très Sainte Vierge qui a été un modèle d'humilité. Si elle est devenue mère de Dieu, c'est parce qu'elle a été l'humilité la plus grande. Voyez. Le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante et nous dit si bien dans ce Magnificat. Mais elle nous dit aussi, eh bien, que le bon Dieu renvoie les riches, c'est-à-dire les orgueilleux, ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, elle les renvoie les mains vides. Voilà, Dieu les renvoie les mains vides. Tandis que les humbles, Dieu les comble de richesses, de bienfaits. Et d'ailleurs, la vertu d'humilité est nécessaire à toute vertu. Il n'y a pas de vertu de foi sans la vertu d'humilité. Pourquoi? Eh bien parce que vers la vertu de foi, nous devons adhérer, notre intelligence adhère à des vérités que même nous ne comprenons pas pour une partie. À des mystères que nous croyons sans comprendre. L'orgueilleux, lui, ne peut pas. Il va avoir raison de tout. Donc déjà là, la vertu de foi demande la vertu d'humilité. La vertu d'espérance aussi demande la vertu d'humilité. Puisqu'on espère en Dieu, on considère qu'on est inférieur, qu'on a besoin de Dieu, qu'on compte sur sa grâce, qu'on compte sur lui et pas sur nous-mêmes. L'orgueilleux, lui, compte sur lui-même. Vous voyez ? La vertu de charité aussi exige l'humilité. Etc. Et toutes les vertus. Alors il nous faut demander cette vertu profonde d'humilité qui nous rendra agréable à Dieu et qui nous rendra fort. Comment voulez-vous humilier un humble? C'est pas possible. Pas possible. Alors si nous étions vraiment humbles, nous ne craindrions rien et nous n'aurions pas de respect humain. On pourrait nous dire n'importe quoi. De toute façon, si c'est vrai, eh bien, ça reste dans la vérité. Si c'est pas vrai, eh bien, notre Seigneur a été injustement traité aussi. Alors, notre Seigneur nous donne l'occasion de l'imiter toujours davantage dans les mépris. Voilà, demandons donc, et puis, veillons-nous. Regardons un peu ces sentiments du pharisien et du publicain, et si ces sentiments sont dans notre âme, sachant rejeter ceux du pharisien et sachant accueillir ceux du publicain. Imitons donc ce publicain qui était un pécheur. Le publicain, c'était les pécheurs publics. C'est pour ça qu'on appelait les publicains. Il était un pécheur, il le reconnaissait. Voilà. Et bien, il est rentré chez lui justifié par la vertu d'humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les miracles sont la voix de Dieu, nous dit saint Augustin. Et par les miracles, Dieu a comme intention de nous instruire, de nous faire découvrir des vérités importantes. Et bien, par ce grand miracle de la multiplication des pains, qu'a donc voulu nous faire comprendre, qu'a donc voulu nous faire entendre le Sauveur du monde? Ce miracle n'est pas sans raison. L'évangéliste qui nous présente ce récit nous dit que tout un peuple s'est mis à suivre Jésus, s'est abandonné à la conduite de Jésus. Des milliers d'hommes qui, sans provision, sans subsistance, quittent leur maison pour suivre notre Seigneur, pour entendre sa parole, pour entendre son enseignement. Et dans cet événement, nous voyons aussi un Dieu touché de compassion pour eux. Un Dieu qui pourvoit lui-même à leurs besoins. Un Dieu qui distribue avec abondance ses dons, ses biens. Et cette multitude nombreuse est enfin nourrie et rassasiée. Ce que Jésus-Christ veut nous apprendre par ce miracle, c'est qu'il y a une providence qui gouverne le monde. Une providence à laquelle nous devons tous nous soumettre. Non pas comme les créatures qui n'ont pas de raison et qui, elles, sont soumises d'une façon nécessaire, mais comme des créatures raisonnables, par un libre consentement de notre volonté. Nous serions émerveillés si nous avions été témoins de cette multiplication des pains. Et pourtant, ce prodige, ce miracle, est bien moins important que le gouvernement du monde. Oui, Dieu gouverne le monde. Si l'on réfléchissait un peu, si l'on regardait un peu, par exemple, ces grains de blé qui se multiplient pour nourrir toutes les créatures, oui, n'est-ce pas là déjà un miracle? Ces fruits, ces arbres qui se multiplient, cette vie qui se multiplie, oui, comme presque miraculeusement, comme un grain, en mourant, peut produire 10, 20, 60 fois ce qu'il était lui-même, avec ses facultés, avec ses possibilités de à nouveau reproduire 10, 20, 50, 60 fois. Malheureusement, il y a des hommes qui ne veulent pas entendre cet enseignement. Ou il y en a d'autres qui ne veulent pas se soumettre à cette divine providence. Saint Augustin nous dit, il y a deux choses capables de toucher l'homme et de faire impression sur son cœur. Ces deux choses sont le devoir et l'intérêt. Le devoir parce qu'il est raisonnable. Et l'intérêt, eh bien parce que tout homme s'aime lui-même. Il cherche son propre intérêt. Eh bien voilà, ce sont comme deux ressorts qui font communément agir l'homme. Mais il faut aussi que ces deux ressorts soient ensemble pour que l'action soit efficace. Car le devoir sans l'intérêt, c'est bien faible. C'est languissant. Faire son devoir sans espérer quelque chose, c'est pas très encourageant. Et l'intérêt sans le devoir, c'est quelque chose de bas, de honteux. Eh bien, nous pouvons appliquer cela par rapport à la providence. C'est un devoir pour nous de nous attacher à cette providence divine, de nous confier en elle, de nous conformer à ses ordres et d'en faire la règle de notre vie. Eh bien, il est aussi dans le plus grand intérêt de l'homme que de se conformer à cette providence. Rien de plus heureux que l'homme chrétien qui fait consister tout son appui dans la foi de la providence. Le prophète Jérémie nous dit que l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur est comme un arbre transplanté au bord d'un ruisseau, qui pousse ses racines vers l'eau. S'il survient la sécheresse, eh bien cet arbre ne craint rien. Son feuillage demeurera toujours vert et cet arbre produira toujours des fruits. Voilà l'image que donne Jérémie de cet homme, de l'homme qui se soumet, qui essaie de coopérer, de correspondre, d'entrer dans ce plan de la providence. Est-ce vraiment raisonnable de se soumettre à la providence? Est-ce raisonnable de se soumettre à cet être si intelligent et si sage qui régit tout l'univers? Les esprits orgueilleux, pour ne pas avoir à se soumettre à la providence, ne craignent pas d'attribuer toute cette création, tout cet ordre, toute cette organisation au hasard et non pas à Dieu. Mais vous comprenez combien cela est insensé. Il serait aussi insensé de penser que cet univers se maintienne dans un ordre parfait sans qu'il y ait une intelligence qui est présidée, qui est au-dessus de cet ordre, qui ordonne tout cela. Donc il est aussi insensé de penser cela que de penser qu'un livre écrit est le fruit du hasard. Ces orgueilleux ne douteront jamais que les livres sont écrits par des personnes, par des intelligences. Le monde, disait Cassiodore, c'est le grand théâtre et la grande école de la providence. Pour peu qu'on réfléchisse, on ne peut nier qu'il y a dans l'univers une puissance et une sagesse supérieure à celle des hommes. Une sagesse qui se joue des desseins de ces orgueilleux, qui ordonne la destinée de toutes ces créatures, qui élève, qui abaisse, qui enrichit, qui appauvrit, qui dispose de toutes choses comme l'arbitre suprême de tout. En sachant que la prudence humaine, même la plus raffinée, est sujette à de nombreuses erreurs, il nous faut recourir souvent à Dieu. Certes, Dieu nous a donné une intelligence pour que nous en fassions usage, mais il faut aussi soumettre cette intelligence à Dieu. Il faut aussi prier, réfléchir, éclairer notre esprit par la foi. Et ensuite, eh bien, il faut tâcher de bonne foi à reconnaître l'ordre de Dieu. Et puis, il faut agir en essayant de nous conformer à la sagesse de Dieu, à ce que le bon Dieu nous a révélé, à cette foi. Il nous faut faire ensuite confiance en Dieu et se dire, eh bien, que Dieu même suppléera à nos défauts et qu'il aura d'autres voies pour nous redresser. Il nous faudrait dire bien souvent cette prière que faisait le plus sage des hommes, Salomon, à qui Dieu avait donné une sagesse incomparable pour les créatures. Et Salomon disait souvent, « Donnez-moi, Seigneur, cette sagesse qui est assise avec vous sur votre trône, afin qu'elle travaille avec moi et que sans me tromper jamais, elle m'apprenne comment je dois agir pour vous être agréable. Y a-t-il plus malheureux que l'homme qui veut vivre sans se conformer à la conduite de la Providence? Cet homme demeure sans conduite sûre et droite. Il ne lui reste que deux possibilités. S'il met Dieu de côté, s'il écarte Dieu, il lui restera de mettre sa confiance en lui-même ou dans les hommes, mais on connaît trop la faiblesse humaine, qui est si facilement aveuglée par ses caprices, la faiblesse humaine qui est si esclave de ses passions, avec une raison si bornée, si limitée, qui se trompe si souvent. Et aussi, eh bien, en quittant Dieu, celui qui ne se confie qu'en lui oblige en quelque sorte Dieu à le quitter, à se retirer de lui, à retirer de lui cette protection paternelle qui fait, selon l'Écriture, tout le bonheur des justes sur la terre. Il se prive par là de la plus douce, ou plutôt de l'unique consolation qu'il peut avoir en certaines épreuves, où la foi seule de la Providence pourrait le soutenir. Enfin, c'est que ne voulant pas dépendre de Dieu par une soumission libre et volontaire, il en dépendra malgré lui par une soumission forcée. Et que refusant de se captiver sous une loi d'amour, il ne peut éviter d'être assujetti aux lois les plus dures d'une rigoureuse justice. Alors, eh bien, chers fidèles, aimons à contempler. Demandons-lui sans cesse que sa volonté s'accomplisse en nous, qu'elle s'accomplisse sur la terre où il veut que nous nous sanctifions, comme elle s'accomplit au ciel où il couronne les saints. Et aussi, bien sûr, adressons à celle qui nous a donné la sagesse éternelle, à Notre-Dame, car la sagesse éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de son Fils, pour nous obtenir, voilà, d'avoir cette sagesse, toujours plus grande, la sagesse de Dieu, et non pas la sagesse du monde. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, et qu'il vous soit fait selon que vous avez cru, a répondu notre Seigneur à ce centurion qui était venu lui demander la guérison d'un de ses serviteurs qui était atteint d'une paralysie grave, mais mortelle, et quand il souffrait beaucoup. Ne trouvez-vous pas cela un peu surprenant que le Sauveur du monde, au lieu d'attribuer les miracles de sa toute-puissance à sa toute-puissance, il les attribue dans l'Évangile à la foi des hommes? Au lieu de se réserver la gloire, il la donne tout entière à la foi, comme si la foi seule eût opéré par lui ce que lui opérait pour la foi. Et nous voyons dans cet évangile notre Seigneur qui est admiratif. Comment notre Seigneur qui est Dieu, de quoi peut-il bien être admiratif ici-bas, sur cette terre, lui qui connaît tout? Voyez. Eh bien, il est admiratif de voir la foi de ce centurion. Et l'on voit souvent dans l'Évangile notre Seigneur qui exalte partout la vertu de foi. Il publie la force et l'efficacité de la foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi à la mer et elle s'y jetterait. On voit aussi notre Seigneur qui ne peut rien refuser quand il y a la foi. Pensez à cette femme qui était païenne et qui demandait une grâce pour sa fille, et notre Seigneur ne voulait pas l'accorder, mais quand il s'est rendu compte de la foi qu'elle avait, alors il a exaucé. Voyez. Mais attention, ne tombons pas dans cette erreur de Luther, qui prétend que tout l'ouvrage et toute l'affaire de notre salut roulent uniquement sur la foi. Son erreur est de détruire dans le christianisme la pratique et la nécessité des bonnes œuvres. C'est la foi sans les bonnes œuvres. Là, c'est un excès, c'est une erreur. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça prendrait un peu trop long. Mais je voudrais seulement vous parler brièvement, oh, brièvement, parce que c'est difficile de tout dire, que la foi, c'est ce qui nous sauve, et la foi, c'est ce qui nous condamne. Ça paraît contradictoire, et pourtant c'est bien la réalité. Le juste est sauvé par la foi, parce que c'est surtout par la foi, de la foi que vient sa justification. Le pécheur, lui, il est condamné par la foi, parce que la foi sans les œuvres devient contre lui un titre de condamnation. Comment faut-il donc comprendre que la foi nous sauve ? Eh bien, nous sauve de deux manières, comme perfection de nos bonnes œuvres et comme principe de nos bonnes œuvres. On ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être récompensé par Dieu que par les mérites des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne peuvent avoir de mérite devant Dieu que par la foi. Quoi que nous fassions de bon, même d'héroïque, si nous ne le faisons pas dans l'esprit de foi, ça n'a pas de valeur pour notre salut. Sans une foi pure, sans une foi sincère, sans une foi humble, obéissante, tout ce que nous faisons nous est inutile par rapport à l'éternité bienheureuse. Saint Paul reprochait aux Juifs qui s'assuraient que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham devraient s'accomplir sur eux s'ils observaient fidèlement la loi de Moïse. « Vous vous trompez, mes frères, » leur dit saint Paul. « Ce n'est point la pratique de votre loi qui vous sauvera, c'est la foi de Jésus-Christ, » leur dit saint Paul. Si tout ce que vous faites n'est pas sanctifié par la foi, vous ne faites rien. C'est la foi qui donne accès auprès de Dieu. Plus tard, il y a eu les Pélagiens. Les Pélagiens se persuadaient que Dieu tenait compte de leurs bonnes œuvres naturelles et donnait des grâces en échange des bonnes œuvres. Voilà. Ils disaient, eh bien, le bon Dieu donnera des grâces à tous ceux qui font le bien. Eh bien, saint Augustin leur dit, « Non, mes frères, ces bonnes œuvres naturelles sur quoi vous vous appuyez n'ont aucun effet pour le salut. Tout est perdu. Ce n'est point là ce qui engage Dieu à nous accorder sa grâce, et jamais il ne nous en tiendra compte dans l'éternité. Jamais Dieu ne nous tiendra compte des bonnes œuvres naturel dans l'éternité. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'a pas la foi. Ce n'est pas la même vertu. Il y a la vertu surnaturelle ou la vertu naturelle. C'est à la foi que Dieu a attaché tout le mérite de notre vie. Et sans la foi, rien ne peut nous conduire à lui. Eh bien, cette doctrine de saint Paul, de saint Augustin, de l'Église en somme, elle est valable pour tous ceux qui n'ont pas la foi catholique. Souvent on entend dire, mais regardez les protestants, ils sont plus charitables, ils sont beaucoup plus charitables que vous. Regardez les témoins de Jéhovah, ils sont beaucoup plus vertueux que vous. Ils n'ont plus apostolique, ils sont beaucoup plus tenaces. Regardez ceux-là, ils sont beaucoup plus abstinent, beaucoup plus tempérant. Cela pourrit, regardez les charismatiques, qui pourrit des heures et des nuits entières, formidable.
Oui.
Eh bien, toutes leurs œuvres de piété, quoique éclatantes, ne sont que des œuvres mortes et sans valeur aux yeux de Dieu. Pourtant, ils prient le bon Dieu. Leurs vertus ne sont que des fantômes et que des arbres stériles. Ils ont semé ailleurs que dans le champ de l'Église. Et le Saint-Esprit nous dit, par le prophète David, que Dieu ne veut être loué que dans son Église, l'unique dépositaire de la vraie foi. En dehors de là, il n'y a ni louange, ni prière que Dieu n'écoute. Que penser de toutes ces réunions, les réunions de toutes les religions, pour prier pour la paix, pour prier Dieu pour la paix? Aucune valeur aux yeux de Dieu, aucune valeur. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit. C'est encore le Saint-Esprit qui nous dit dans le psaume 49, « Pourquoi t'ingères-tu à sanctifier mon nom? Et pourquoi, n'ayant pas la foi de mes serviteurs, entreprends-tu de me rendre des services que je ne puis agréer ?» C'est Dieu qui parle. Oui. Saint Augustin nous fait cette affirmation impressionnante. Un chrétien qui, dans sa condition, pratiquerait tout ce qu'il y a de plus saint et de plus parfait, mais qui n'aurait pas l'intégrité de la foi des intégristes, avec toute sa perfection et sa prétendue sainteté, serait éternellement l'objet de la réprobation divine. C'est les paroles de saint Augustin. Alors, mes bien chers fidèles, ça nous fait un peu comprendre la gravité de tous ces changements qui sont intervenus dans l'Église. Et ces changements, quel but ont-ils eu? De faire perdre la foi. Oh, vous exagérez. Eh bien non. Pour la preuve, je vous ramène de nouveau à ces statistiques qui ont été faites auprès des catholiques valaisans, soi disant les meilleurs. Eh bien, plus de 80% des catholiques valaisans n'ont plus la foi catholique. Et alors toutes leurs prières, toutes leurs œuvres. Voilà. Et on est obligé de s'en tenir à la Sainte Écriture. Hein. Le bon Dieu, lui, il ne change pas. Ce qu'il a dit demeure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ils ont changé de religion. Ils ne veulent pas se soumettre à l'Église. Non, les modernistes ne veulent pas se soumettre à l'Église. Ils ont une foi différente. Déjà, Saint Pie le disait, leur foi n'est pas la vraie foi. C'est une autre foi. Ils ne veulent pas se soumettre à l'Église catholique. Et donc, en ne voulant pas se soumettre à l'Église, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et comment alors leurs prières, comment leurs pénitences, comment leurs sacrifices peuvent être agréables à celui qu'ils ne veulent pas obéir? Ils ont quitté la maison du bon Dieu, qui est l'Église, et se sont fait des églises à leur façon, à leur mode. Ils se sont laissés aller à des nouveautés, encore dit saint Augustin, ils se sont laissés aller à des nouveautés. Ils ont écouté des maîtres et des docteurs que Dieu n'autorisait pas, les protestants. Ils ont préféré leurs sentiments et leur conduite à la règle universelle que Dieu avait établie. Alors on pourrait se dire, ouf, on l'a échappé belle. Hein? Non, Dieu soit loué, qui nous a gardés dans la vraie foi, et puis voilà, qu'on soit dans la tradition. Eh bien, on n'est pas sauvé pour autant. Parce que, est-ce que nous vivons vraiment selon notre foi? Est-ce que notre conduite n'est pas en contradiction avec la foi? Est-ce que nous ne détruisons pas par la pratique ce que nous professons par notre bouche? Oui. Comment reconnaît-on si on a la foi? Eh bien, par les œuvres. À voir comment vivent certaines personnes, c'est à se demander s'ils ont la foi. Eh bien, pour beaucoup de chrétiens, la foi ne les sauvera pas, mais les condamnera. Il y en a de ceux qui pratiquent pour se damner. La foi nous condamne, si nous ne vivons pas selon les maximes de la foi. Parce qu'à ce moment-là, nous retenons notre foi captive dans l'injustice. Saint Bernard nous fait cette remarque. Au début, à la naissance du christianisme, lorsqu'il y avait des persécutions, la foi était libre pendant que les fidèles étaient captifs. Maintenant que les persécutions ont cessé, les fidèles jouissent d'une liberté dont ils abusent. Et la foi est comme enchaînée par cet abus justement de la liberté. Alors, est-ce que nous vivons vraiment chrétiennement? Est-ce que nous vivons vraiment cette foi? Cette foi qui nous enseigne quoi? Qui nous enseigne le mépris des biens terrestres et périssables, qui nous enseigne une vie humble, fuyant les honneurs mondains, fuyant les fausses grandeurs du siècle, une foi qui prêche la mortification, une foi qui prêche l'esprit de sacrifice, une foi qui prêche le détachement de soi-même, une foi qui prêche la pénitence. Ou bien, vivons-nous plutôt à rechercher les biens, à les accumuler? Avons-nous une vie toute préoccupée de rechercher nos aises, le luxe, les commodités, de rechercher nos plaisirs, de rechercher une réputation dans la société, de rechercher à paraître, de rechercher l'estime du monde? Ou bien, déjà aussi dans notre habillement, avons-nous un habillement selon ce que la foi nous suggère, selon la modestie de la vertu de foi, ou bien avons-nous un habillement selon les maximes du monde? Oui. Vivre en chrétien, c'est faire ce que la foi nous ordonne et ne pas faire ce que la foi nous défend. Voilà, et bien demandons donc cette grâce à la très sainte Vierge Marie, à ses apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, tous ces premiers chrétiens et tous ces grands héros de la foi, tous ceux qui nous ont précédés, qui maintenant sont au ciel grâce à la vertu de foi. Demandons bien cette grâce des uns pour les autres à l'occasion de ce saint sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que Dieu soit béni, en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, dont nous célébrons aujourd'hui cette belle fête de l'Assomption, de l'entrée de Notre-Dame dans le ciel. Voilà. Qui pourra se faire une juste idée de ce qu'a dû être cette fête lorsque Notre-Dame est entrée avec son corps, avec son âme, dans le ciel? Quel accueil grandiose! Les neuf cœurs glorieux des anges, tous ces myriades et ces myriades d'anges, tous ces bienheureux du ciel ont dû faire à Notre-Dame. Oui. Ils l'ont honorée comme leur reine, comme leur mère. Ils l'ont saluée avec un respect qu'on ne peut pas exprimer. Qu'il y avait parmi ces bienheureux, eh bien il y avait Adam et Ève, voilà, qui sont venus la saluer. Oh, vous êtes la nouvelle Ève. Vous êtes venu réparer ce que nous avons gâté, malheureusement, par notre péché originel. Vous êtes venu, voilà, rétablir par votre fiat. Vous avez coopéré au plan de miséricorde de Dieu. Si vous n'aviez pas dit oui, voilà, vous êtes la nouvelle Ève. Et puis, il y avait tous ces prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui ont parlé de Notre-Dame, qui ont parlé de cette Vierge qui enfanterait. C'était quelque chose qui dépassait l'intelligence humaine, mais qui ne dépasse pas les pouvoirs de Dieu. Eh bien voilà, c'est vous, cette Vierge, qui avez conçu, voilà, qui avez mis au monde le Verbe de Dieu, le Rédempteur, et tous les patriarches aussi. Et puis le prophète Élie qui avait vu ce petit nuage monter de la mer, et qui représentait, tous les pères d'Église nous disent, qui représentait la Sainte Vierge. Et puis qu'il y avait encore le bon larron, il a dû son ciel à la Sainte Vierge. Vous savez, les évangélistes nous parlent, lorsqu'ils nous décrivent ces événements de la Passion de notre Seigneur, ils nous disent que les deux larrons blasphémaient, et puis et contre notre Seigneur, parce que c'était à cause de lui qu'ils étaient condamnés à mort ce jour-là. Ils étaient déjà condamnés, bien sûr, mais pas ce jour-là. Leur condamnation aurait dû être plus tard. On était mécontents. À cause de toi, on est condamnés à mort. Et puis après, le bon larron s'est tourné. Et tous les pères d'église nous disent, les pères d'église nous disent que c'est grâce à l'intervention de la Très Sainte Vierge. Alors il a dû lui faire un accueil. Mon Dieu, comment ? De ce qu'il est sauvé grâce à elle. Et puis qu'il y avait Saint-Joseph. Que le brave Saint-Joseph, là, qu'est-ce qu'il a dû être heureux de revoir Notre-Dame. Oui, ils ont dû se consoler de toutes leurs tribulations. Ils en ont eu des tribulations, les pauvres. Voilà. Et puis Saint-Joachim, voyez, Sainte-Anne, et tant d'autres. Quel accueil. On ne peut pas s'imaginer ce que cela a dû être. Mais aussi, bien plus encore, et avec plus de magnificence, a été l'accueil de Dieu, de la très sainte Trinité, de chacune des personnes de la sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel accueil magnifique ils ont dû faire à Notre-Dame. Elle qui a coopéré en tout, qui a tout fait pour plaire à Dieu, qui a aimé Dieu d'un amour que jamais personne ne pourra égaler, et qui n'a voulu vivre que pour Dieu, quel accueil a dû être fait. Elle qui s'est renoncée pour faire la volonté du bon Dieu. Vous savez, elle savait très bien qu'en disant fiat, tout ce qu'elle aurait à subir, à souffrir, elle connaissait les Saintes Écritures, elle savait bien par où le Sauveur passerait, et aussi ce qu'elle aurait à endurer. Elle savait cela, mais elle a coopéré, tellement aimé Dieu qu'elle a voulu faire en tout sa volonté. Et aussi, ce qu'elle aurait à endurer, elle savait cela, mais elle a coopéré, tellement aimé Dieu qu'elle a voulu faire en tout sa volonté. Alors elle a été bien récompensée. Oui. Et dans ce moment si sublime, dans ce triomphe, dans cette gloire, dans cette fête du ciel, qu'est-ce que la Sainte Vierge a bien pu dire? Essayons de nous représenter ce quelle parole a-t-elle adressée à Dieu et à tous ses saints. Je pense qu'on peut le deviner sans beaucoup se tromper. Bien sûr, la Sainte Écriture ne nous le dit pas, hein, mais je pense qu'on peut le deviner. Et à mon avis, elle n'a pas pu dire d'autres paroles que celles qu'elle a adressées à Sainte Élisabeth le jour de sa visite, 3 mois avant la naissance de Saint Jean-Baptiste. Mon âme glorifie le Seigneur. Et je pense qu'elle n'a pas pu dire d'autres paroles. Et d'ailleurs, voyez, ce sont ces paroles que la Sainte Église nous fait prendre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ce magnificat, ce cantique de louange et d'action de grâce. Oui, aux acclamations de ces myriades d'anges, de tous ces bienheureux, Marie ne peut que dire « Mon âme glorifie le Seigneur ». Marie glorifie le Seigneur parce qu'il est le maître absolu de toutes choses. Elle le glorifie parce qu'il est son sauveur. In Deus salutari meo. En Dieu, mon sauveur. Et non seulement son sauveur, mais le sauveur de tous. Marie le glorifie parce que Dieu daigne regarder et bénir les humbles. Marie le glorifie parce que Dieu fait de grandes choses et que son nom est saint. Elle le glorifie parce qu'il est magnifique dans sa miséricorde et qu'il a compassion de ceux qui le craignent. Oui, elle le glorifie parce que Dieu comble de bien ceux qui se sentent dans le besoin. Marie glorifie le Seigneur parce qu'il délivre ceux qui semblent perdus. Ce qui semble être abandonné. Marie glorifie le Seigneur enfin, parce qu'il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. En résumé, Marie glorifie Dieu parce que Dieu est merveilleux. parce qu'il est tel qu'il est, un Dieu ayant les perfections infinies. Sur la terre, on connaît des perfections, par exemple la beauté. Vous voyez, une mésange, que c'est beau une mésange, mais elle est limitée cette beauté. Il y a des perroquets qui sont plus beaux que la mésange. Le martin pêcheur est très joli, etc. Et voyez, ce sont des beautés qui sont limitées. Il y a des degrés de beauté, mais Dieu est la beauté infinie. Il n'y a pas de limite. Personne ne pourra jamais dépasser la beauté de Dieu. Ou d'autres perfections comme la bonté. Sur la terre, il y a des êtres bons. Quand on lit la vie des saints, on est des fois émerveillé de voir ce que les saints ont été bons. Cette bonté est toute paternelle. Eh bien, il y a des degrés de bonté. Mais Dieu, c'est la bonté infinie. Il n'y a pas de limite à la bonté de Dieu. Eh bien, Marie glorifie le Seigneur parce qu'il est ce Dieu avec les perfections infinies. Ce Dieu si bon, ce Dieu si admirable. Que de sentiments de reconnaissance sont accumulés dans le cœur de Marie. Quelle expression de gratitude envers le Seigneur il y a dans ces simples mots. Mon âme glorifie le Seigneur. Oui, Marie bénit sans cesse le Seigneur. Elle ne cesse de lui exprimer toute sa gratitude pour ses bienfaits innombrables, pour sa miséricorde infinie. Et aussi, elle sait très bien que si en ce jour elle a pu entrer dans ce ciel, dans une pareille gloire, elle le doit à son Dieu. Elle le doit tout à fait à son Dieu. Oh certes, Notre-Dame n'a pas attendu ce moment-là pour remercier Dieu, pour exprimer toute sa reconnaissance, pour tous ses bienfaits, mais c'est continuellement, tout au long de sa vie, qu'elle adressait ses actions de grâce à Dieu. Et tous les privilèges et tous les bienfaits que Dieu lui a prodigués n'ont fait que croître en elle l'amour de Dieu. Voyez, la vraie reconnaissance ne va pas sans l'amour de Dieu. Et même, la vraie reconnaissance ne va pas non plus sans l'amour du prochain. Eh bien, Notre-Dame méditait et contemplait sans cesse dans son cœur les innombrables bienfaits de Dieu, pour elle, mais non pas seulement pour elle, pour toute la créature. Ce Dieu si attentif, si occupé de chacune de ses créatures. Marie le contemplait. Elle le découvrait dans les événements d'ici-bas, de la vie, dans toutes les choses créées. Elle y voyait la main de Dieu, l'attention de Dieu, le souffle de Dieu. Eh bien aujourd'hui, notre terre a envoyé un précieux présent au ciel. Un fruit de la terre s'est élevé là d'où nous viennent tous les dons excellents du ciel, d'où nous viennent tous dons parfaits. Et une fois montée aux cieux, la bienheureuse Vierge Marie comblera de bien tous les hommes. Elle comblera de ses dons tous les hommes qui s'adresseront à elle. Là au ciel, il ne lui manquera pas le pouvoir, il ne lui manquera encore moins le vouloir de faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je voudrais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Combien plus la Sainte Vierge a ce désir? Oui, mes bien chers frères, bien réjouissons-nous. Réjouissons-nous de voir notre bonne maman du ciel entrer, recevoir sa récompense, recevoir sa couronne. Voyez, oh, elle l'a désiré. Depuis que Jésus est monté au ciel, que de soupirs elle a dû adresser à Dieu. Voilà, en devant rester encore captive sur la terre. Et enfin, voilà, réaliser cet instant. Sur la terre, il n'y a pas eu d'endroit plus honorable que le temple du Saint Virginal de Marie pour recevoir le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a en trouvé en Notre-Dame un petit coin de ciel. Eh bien aujourd'hui, ce Fils de Dieu lui offre le grand ciel. Oui.
Alors il nous faut demander à Notre-Dame l'amour des vertus et puis la pratique des vertus. Vertu de charité, voyez. La vertu de charité déjà attire Dieu dans notre âme. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. Voilà. Ah, si un jour nous avons le bonheur d'aller au ciel, eh bien nous verrons, nous contemplerons cette bonne maman du ciel. Nous verrons quelle a été cette fête, cet accueil glorieux qui lui a été fait dans le ciel. Si nous avons une tendre dévotion envers Notre-Dame, nous sommes assurés de pratiquer la vertu, de recevoir les grâces et d'aller un jour au ciel. C'est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous le dis en vérité, vous pleurerez. Vous serez dans l'affliction et le monde se réjouira. Par ces paroles, Jésus-Christ prononce deux jugements bien contraires. L'un en faveur des élus, représentés par les apôtres, et l'autre pour la condamnation des pécheurs qui composent ce monde. Vous pleurerez, vous vivrez dans la souffrance et dans la peine. Voilà le sort des prédestinés. Mais le monde sera dans la joie et rien de tous les plaisirs de la vie ne lui manquera. Voilà le partage des pécheurs. Quel partage ! Les justes, ceux qui s'attachent fidèlement et constamment à suivre Jésus, quelle récompense ! Ils seront dans l'affliction. Et les pécheurs, les ennemis de l'Évangile, ceux qui offensent Dieu, quel châtiment ! Ils seront dans la joie. Bien sûr, avec nos raisonnements humains, on est un peu surpris de cela. Mais la sagesse de Dieu est bien différente de nos raisons humaines. Mais le Sauveur ne nous laisse pas là. Il poursuit en nous disant, au juste, qu'après avoir vécu dans l'affliction, dans les pleurs, eh bien leur tristesse se changera en joie, dans une joie solide, durable, éternelle. Ces paroles de notre Seigneur ne veulent pas dire qu'il n'y a pas quelques bons moments dans la vie, qu'il n'y ait pas des divertissements honnêtes, innocents et par conséquent permis pour les chrétiens, pour ceux qui veulent suivre notre Seigneur, permis selon les règles de la modération de l'Évangile. Mais Saint Grégoire nous dit que les divertissements du monde permis, innocents et honnêtes, sont en petit nombre. Et que la plupart des divertissements du monde sont condamnables. Parce que souvent, ils flattent nos sens, ils flattent le vieil homme, et ainsi ils refroidissent. Ils refroidissent la piété, ils refroidissent la ferveur, ils nous éloignent de Dieu. Et petit à petit, insensiblement, il nous porte au désordre. Voilà. Le monde actuel est arrivé à un tel relâchement des mœurs que tout porte à la recherche des plaisirs. Ce monde présente même comme honnête et innocent des divertissements que la loi de Dieu condamne. Ce monde est rempli de scandales. Le scandale est quasi quotidien, qui choque les âmes vertueuses, qui veulent rester pures. Oui. Que tout cela est bien contraire aux promesses du baptême, où nous avons renoncé à Satan, à ses pompes, à ses œuvres et à ses séductions. Et aussi, bien que nous sommes éloignés de la piété, de la ferveur d'autrefois, que nous sommes éloignés de ce souci d'acquérir des vertus solides, des vertus profondes, ces vertus chrétiennes qui font vraiment des hommes et des femmes dignes de ce nom. Eh bien, cela vient certes de cette influence du monde qui déteint sur nous, qui nous attiédit, qui nous dégénère. Nous avons beaucoup plus de difficultés à nous renoncer. Et les tentations sont quelquefois grandes de vouloir suivre la voie facile, la voie agréable, de faire comme tout le monde fait. Depuis le péché originel, il semble que Dieu a retiré du monde tout ce qu'il avait répandu de joie véritable pendant l'innocence de nos premiers parents, tout ce qu'ils avaient avant le péché originel. Si bien que ce qui flatte maintenant nos sens devient dangereux du fait que nos âmes sont affaiblies. Elles sont blessées par le péché originel et par les péchés personnels aussi. Si notre Seigneur Jésus-Christ est incarné, bien, le premier but, c'est de nous racheter par sa passion, par sa souffrance. Mais c'est aussi pour une autre raison, pour nous donner un modèle de vie chrétienne. Notre Seigneur n'avait pas la blessure du péché originel. Il ne pouvait pas pécher. Son âme n'était pas affaiblie comme la nôtre. Et cependant, il a vécu dans le renoncement au plaisir terrestre. Il a vécu dans la pauvreté. Il a vécu dans le détachement de tout. Pourtant, il ne devait pas craindre quelque danger de ce côté-là. Il l'a voulu pour nous donner une leçon, pour nous apprendre. Si lui a daigné choisir cette voie, cette vie, combien plus nous qui sommes faibles. Notre Seigneur a voulu même bien plus. Il a voulu être exposé aux persécutions. De la part de qui? Des siens, de son peuple. Et il nous rappelle si bien que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Si lui, qui est notre maître, a passé par là, eh bien c'est notre voie. Il nous faut passer par là. Il ne faut pas refuser cette voie. Oui. Il ne faut pas s'étonner que Jésus-Christ nous demande de persécuter en nous-mêmes l'amour des plaisirs. Oui, nous devons lutter contre cet amour des plaisirs, car loin d'être des amis, ils nous causent de grands maux. Et les pires des ennemis, disait un sage d'autrefois, ce sont les flatteurs, tous ceux qui flattent. Et l'on peut ajouter que les pires de tous les flatteurs, ce sont les plaisirs. Et que de maux! Que de maux viennent de l'amour désordonné des plaisirs. Et aujourd'hui, nous avons des exemples à foison. Oui. Des familles déchirées à cause de l'amour des plaisirs. Des injustices qui se commettent continuellement à cause aussi de l'amour des plaisirs. Des crimes, des violences à cause de l'amour des plaisirs. Oui. Que d'enfants sont victimes de cet amour des plaisirs, de par la séparation des parents, de par ces ménages dissolus. Voyez. Que de drames. Voyez. Ces plaisirs du monde nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi souvent, Saint Paul nous le rappelle, et encore dans l'épître d'aujourd'hui, il nous invite à nous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Notre Seigneur va même plus loin. Dans l'exigence de l'Évangile, il nous dit, eh bien, Si notre œil, si notre main, si notre pied est un objet de scandale, il faut le couper, il faut l'arracher. On n'est pas prêt de le faire parce qu'on y tient à nos membres. On y tient fermement, on y tient fortement. Notre Seigneur nous le dit pour nous montrer quelle énergie il nous faut utiliser pour nous couper de ce qui nous entraîne au mal, de ce qui nous entraîne au péché. Les mauvaises compagnies. Combien se sont damnés par les mauvaises compagnies pour se laisser entraîner? Les mauvaises occasions. Et certains théâtres, certains cinémas, certains films. On doit avoir cette énergie de refuser cela autant qu'il en faut pour s'arracher un œil. La mort nous surprend dans cet état de disgrâce. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Une éternité de malheur pour quelques minutes de plaisir. Voyez, ça vaut la peine de penser, ça vaut la peine de peser. Voyez, ça nous coûte des efforts, ça nous coûte des peines, des afflictions, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela en comparaison du bonheur que le bon Dieu veut nous offrir dans le ciel? Alors prenons bon courage. Voyez, notre Seigneur a vaincu. Il nous a donné l'exemple d'une vie aussi de renoncement, ça ne durera que peu de temps. Notre Seigneur nous dit aussi dans l'Évangile aujourd'hui, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Les pères de l'Église, expliquant ces paroles, disent, ce peu de temps, eh bien, c'est la vie d'ici-bas. Alors, ça vaut la peine pour une éternité qui ne finira jamais. Il faut y penser à cela, l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Oui, ça ne finira jamais. Ça durera autant que Dieu dure, autant que Dieu existe. Voilà, mes bien chers fidèles, eh bien, prenons bon courage et demandons à notre Sainte Vierge Marie. Et à tous ces saints, eh bien, ils ont fait la même chose. Tous ceux qui sont au ciel ont fait comme ça. Ils y sont arrivés. Pourquoi eux sont arrivés et nous n'arriverions pas? On arrivera aussi, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. S'il y a une maladie qui choque nos yeux, qui nous répugne, qui nous repousse, qui nous dégoûte même, c'est bien la lèpre. Nous ne connaissons pas dans nos pays cette maladie, mais nous avons pu nous rendre compte par quelquefois les affiches qui nous viennent de ces pays où la lèpre existe encore, où l'on voit ses membres diminuer, ses membres qui sont rongés, la peau qui tombe en lambeaux, le visage qui se défigure, le nez qui perd sa forme, on voit les orifices, quelque chose que l'on n'aime pas voir, qui choque vraiment nos yeux. Eh bien, les pères de l'Église nous disent que la lèpre est l'image de l'âme pécheresse, de l'âme en état de péché. Bien sûr, on ne ressent pas pour le péché ce que l'on ressent pour cette maladie de la lèpre, et pourtant, l'âme en état de péché est bien pire que le corps atteint de cette maladie de la lèpre. Cependant, voilà, nous n'avons pas beaucoup de foi pour avoir assez de dégoût, de mépris et d'horreur du péché. Essayons, mes bien chers fidèles, par quelques considérations, de faire grandir en nous cette horreur que nous devrions avoir pour le péché, afin que nous tâchions de l'éviter comme nous éviterions la peste ou un lépreux. Le péché est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Nous comprenons que nous soyons l'ouvrage de Dieu, que nous soyons créés par Dieu, que nous soyons faits par Dieu. Cela, c'est facile à comprendre. Mais que le crucifiement d'un Dieu soit notre ouvrage, voilà quelque chose qui est incompréhensible. Et oui, comme vous le savez, s'il n'y avait pas eu de péché, Jésus n'aurait pas été crucifié. Et donc le crucifiement d'un Dieu, c'est notre ouvrage. Le péché est une folie. Parce que par le péché, nous offensons. Et qui est-ce que nous offensons? Le bon Dieu qui ne nous a jamais fait que du bien. Et ainsi, nous contentons le démon qui ne peut faire que du mal. Voilà. Le péché déshonore Dieu. Un chrétien qui a été créé à l'image de Dieu, qui a été racheté par le sang d'un Dieu. Un chrétien qui est devenu l'enfant de Dieu. Le frère d'un Dieu. Imaginez ça. Nous sommes les frères d'un Dieu, les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu. Le chrétien est l'objet des complaisances des trois personnes de la très sainte Trinité. Le chrétien est l'objet des complaisances des trois personnes de la très sainte Trinité. Le chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Il devient en quelque sorte un ciel où réside la Trinité sainte. Oui. Eh bien, par le péché, le chrétien méprise tout cela, il déshonore Dieu, il chasse Dieu de son âme. Il méprise tous ces bienfaits de Dieu, ce titre de fils de Dieu, ce titre de frère de Dieu, ce titre d'héritier de Dieu. Le péché, vous savez, c'est une désobéissance à Dieu. Oh, le mot désobéissance peut-être vous paraît comme quelque chose de petit. Oh, désobéir, c'est pas bien grave. Estimez les terribles conséquences d'une désobéissance. La désobéissance d'Adam et Ève. Qu'est-ce que ça a entraîné? Pourtant, c'est qu'une désobéissance. Les guerres. Les guerres cruelles. Toutes ces injustices. Toutes les maladies. La mort. Les querelles, les disputes, les déchirements, les crimes, tout ça, c'est la conséquence d'une désobéissance. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est pas grand-chose une désobéissance? Voyez. Et c'est pas tout. L'enfer éternel pour beaucoup d'âmes, pour une désobéissance. Ce n'est pas à prendre à la légère, voyez. Le péché, c'est quelque chose de très grave. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous ayons assez de foi pour nous rendre compte, pour le réaliser. Par le péché, l'âme se sépare de Dieu, se coupe de Dieu. C'est ce que l'on peut lire dans le livre d'Isaïe. Vos péchés ont élevé une séparation entre vous et votre Dieu. Cette âme n'est donc plus à Dieu, n'appartient plus à Dieu. Et Dieu n'est plus à cette âme. Et dans le livre d'Osée, on peut lire ceci. Non, dit le Seigneur lui-même, vous n'êtes plus mon peuple et moi je ne serai plus votre Dieu. Voilà ce qu'il dit à ce peuple qui s'est adonné au péché. Et c'est le roi David qui dit dans un psaume, « Vous haïssez tous ceux qui opèrent l'iniquité. » Le péché est un ennemi tout à fait opposé à la volonté de Dieu. Le roi David dit aussi, « Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends en enfer, vous vous y trouvez, car c'est votre main qui m'y conduira. On n'échappera pas à Dieu. » Les pauvres pécheurs sont maudits de Dieu. Maudits de Dieu. Imaginez ce que cela peut être. maudit de Dieu. Pourquoi? Pourquoi les hommes s'exposent-ils à être maudits de Dieu? Pour un blasphème, pour une mauvaise pensée, pour 2 minutes de plaisir. Cette âme s'expose à perdre son âme, à perdre le ciel pour toujours. Quel malheur! Être maudit de Dieu. Nous verrons monter au ciel ce père, cette mère, cette sœur, ce voisin qui était là près de nous et avec qui nous avons vécu, mais que nous n'avons pas imité, tandis que nous descendrons en enfer pour y brûler. Les démons se rouleront sur nous. Et tous ceux dont nous aurons suivi les conseils viendront nous tourmenter. Ils déchargeront leur haine sur nous. Et ce n'est pas tout. Le pécheur perd tous les mérites de ses actions. Imaginez, par exemple, saint Antoine du désert, qui pendant a vécu 98 ans dans le désert, à se mortifier, à faire des oraisons, à prier, à jeûner, à faire pénitence, à louer le bon Dieu. Que de mérites il s'est amassé tout au long de ses 98 ans dans le désert. Eh bien, un seul péché suffit pour balayer tout ça. Tout est perdu. Une seule désobéissance à Dieu suffit pour tout perdre ses mérites, pour que ça n'ait plus de valeur devant Dieu, qu'ils sont effacés devant Dieu. Voilà, mes bien chers fidèles, ce que fait le péché en notre âme. C'est la pire des choses. Il faut fuir ça comme la peste. Le péché fait de l'enfant de Dieu l'esclave du démon. D'ami de Dieu, on devient ennemi de Dieu. Voilà ce que fait le péché. D'héritier du paradis, il nous fait un réprouvé pour l'éternité. Voilà. On perd un héritage d'un bien infini. Saint François de Sales disait que si les anges pouvaient pleurer, ils se mettraient certainement à verser des larmes de compassion sur la misère d'une âme qui commet un péché mortel et qui perd la grâce de Dieu. Mais le comble de la misère, c'est que les anges pleureraient s'ils le pouvaient, tandis que le pécheur, lui, il ne pleure pas. Combien de gens pleurent pour un être cher qu'ils ont perdu, pour une fortune qu'ils ont perdue? Ils versent des torrents de larmes, mais pas une larme pour un péché. Au contraire, ils continuent, ils rient, ils festoient, ils s'amusent. Que diriez-vous d'un homme qui ferait un bûcher? Il amasserait des fagots de bois, du papier de toutes sortes, il ferait un bûcher. Et vous lui direz, mais pourquoi vous faites ce bûcher? Je fais ce bûcher pour me mettre dessus. Et au bout d'un moment, il allume le feu et il se jette dessus le bûcher. Que diriez-vous? Eh bien, ça, c'est le pécheur. Le pécheur est en train de faire son bûcher et puis ensuite, il se jettera dessus. Le bon Dieu n'a pas besoin de jeter les âmes en enfer. Elles vont d'elles-mêmes par leur péché. Voilà ce que fait le pécheur. Voilà l'état misérable dans lequel nous sommes mis par le péché. Demandons donc cette grâce aujourd'hui de nous faire avoir l'horreur du péché, de le détester. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épisode d'aujourd'hui, mes bien chers fidèles de l'Évangile, se situe quelques jours avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 jours après
le dimanche des rameaux. Et les pharisiens et les juifs étaient furieux après notre Seigneur parce qu'ils étaient jaloux de voir que beaucoup de monde suivait Jésus, de ce que Jésus faisait ses miracles. Et il avait d'ailleurs fait ce miracle de la résurrection de Lazare qui a été donc l'occasion pour eux de prendre la décision de tuer Jésus. Alors on voit encore ces intrigues et ce désir qu'ont les juifs et les pharisiens de faire tomber Jésus dans un piège. Et d'ailleurs l'évangéliste nous dit aujourd'hui, ce pharisien posa la question à notre Seigneur en le tentant, « Tentans eum ». Quel est le plus grand commandement? Il faut savoir que dans la religion juive, il y avait 613 préceptes. Et les pharisiens, les docteurs de la loi n'étaient pas tous du même avis pour savoir quel était le plus grand des commandements. Alors c'est pourquoi on pose cette question, et dans un autre évangéliste, saint Marc, on voit que ce docteur de la loi a été émerveillé de la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette question, elle nous semble un peu simple à nous chrétiens. Nous la savons, mais nous l'avons apprise donc de notre catéchisme, et nous qui avons suivi donc notre Seigneur, qui suivons son enseignement, eh bien, nous ne pouvons que adhérer à cette sentence. Notre Seigneur répondit donc à ce pharisien, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » C'est là le plus grand et le premier des commandements. Et le deuxième commandement lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements sont renfermés la loi et les prophètes. Dans le premier et le plus grand des commandements, notre Seigneur veut nous enseigner deux choses. Tout d'abord, la nécessité et l'obligation d'aimer Dieu. Et deuxièmement, quelle est la mesure de cet amour que nous devons avoir envers Dieu? On pourrait être surpris en voyant que Dieu a fait un commandement de l'aimer. Il nous oblige de l'aimer. Est-ce que le sentiment de la reconnaissance ne suffisait donc pas pour nous faire aimer un si bon Père? Ne semble-t-il pas qu'après tous les bienfaits de la création, tous les bienfaits de la Providence et surtout tous les bienfaits de la rédemption, le cœur de l'homme devait tout naturellement se porter vers Dieu, le remercier sans cesse et l'aimer par-dessus tout? Un jour, un prêtre avait posé la question à saint Stanislas Koska. « Est-ce que tu aimes la Sainte Vierge ?» Et lui fut tout étonné de cette question et il répondit « Mais comment? Comment n'aimerais-je pas ma mère ?» Eh bien, à plus forte raison, nous devrions nous écrier « Mais comment n'aimerais-je pas mon Dieu ?» Mon Créateur, mon Père et mon doux Sauveur, celui qui est la source de ma vie et de mon bonheur dans le temps et pour l'éternité. Eh bien, si Dieu a voulu que ce soit un commandement que nous aimions Dieu, c'est la réalité, c'est ainsi, il n'a pas tort, et cela est dû à cause de la blessure que le péché originel a faite dans nos âmes. Et d'ailleurs, voyez, l'Église est tout à fait dans ce même esprit puisqu'elle fait un dogme de foi, cette vérité de l'existence de Dieu. Cela à cause de cette blessure qui vient obscurcir notre intelligence et qui vient affaiblir notre volonté. Alors Dieu en fait donc un précepte. Et gardons-nous, mes bien chers fidèles, d'imiter ces Juifs, de leur ressembler. Aimons Dieu comme ses enfants bien-aimés. Aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est un bonheur pour nous, mes bien chers fidèles, pour nous qui ne sommes que poussière et cendre, et qu'il nous soit permis d'aimer une si souveraine majesté.
Combien un tel précepte devrait être facile pour nous, pour notre cœur. On raconte dans la vie des premiers franciscains qu'il y avait un frère nommé le frère Gilles, qui était disciple donc de saint François. Et il disait un jour à saint Bonaventure, également franciscain, grand théologien, que vous êtes heureux, vous autres grands savants, de pouvoir louer Dieu mieux que nous, les pauvres ignorants. Et saint Bonaventure lui répond, « Ne vous plaignez pas, car l'amour suffit. » Mais, poursuit le frère Gilles, « Mais un ignorant peut-il aimer Dieu autant qu'un savant ?»« Assurément, répond saint Bonaventure, une pauvre femme peut aimer Dieu, un pauvre peut aimer Dieu autant que le plus sublime docteur. » Alors le frère Gilles s'est écrié, « Ô Dieu soit béni ! Réjouissez-vous donc, pauvre et ignorant, vous pouvez aimer Dieu autant que le frère Bonaventure, qui était un grand théologien. » Quelle doit être donc notre mesure de l'amour envers Dieu ? Notre Seigneur nous dit, « Il faut que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit. » Et saint Augustin et saint Bernard, qui commentent ces paroles, nous disent que la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Non, il ne doit pas y avoir de mesure pour aimer Dieu. Mais, comme dit notre Seigneur, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de tout notre esprit. Et nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit, en l'aimant de préférence à tout, sans exception, en vivant prêt à tout sacrifier. Voilà. Il faut savoir nous sacrifier. Il faudra même quelquefois sacrifier nos parents, nos amis, notre fortune et même notre vie pour Dieu. Je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais je suis venu apporter le glaive. Il n'y a pas d'entente possible entre les ennemis et les amis de Dieu. Les amis de Dieu doivent se sacrifier de leurs amis s'ils sont ennemis de Dieu, de leur entourage. Cet amour de Dieu nous demande cela. Il faut donc plutôt sacrifier tout que d'offenser mortellement notre Seigneur, que d'offenser mortellement Dieu. C'est l'exemple que nous donne Joseph. Dans l'Ancien Testament, Joseph qui a préféré être accusé faussement que de commettre le mal avec la femme de Putiphar et qui a fini en prison. Mais Dieu s'est souvenu de lui et l'a élevé la plus haute place après Pharaon. Ça a été l'exemple aussi de la chaste Suzanne qui n'a pas voulu céder à la sollicitation de ces vieillards corrompus et qui a été conduit sur le chemin du supplice, mais là encore Dieu est intervenu, et par le prophète Daniel, justice a été rétablie. Ça a été aussi ce qu'ont fait les martyrs. Ils ont sacrifié tout, leur fortune, leur famille, leurs biens, et même leur vie, par amour pour Dieu. Voilà le plus sublime acte d'amour envers Dieu. Ils ont aimé Dieu de toute leur force, de toute leur âme, de tout leur esprit. Nous devons aimer Dieu. C'est le plus grand et le premier commandement, car il est le principe et la fin. Il est l'origine et le terme de la loi et de la religion. La religion doit nous conduire à l'amour de Dieu. La loi doit nous conduire à l'amour de Dieu. Pour celui qui aime, il n'y a pas de loi. Il est le premier commandement car il a commencé avec la création de l'homme. Il est le plus grand commandement par son objet car son objet c'est Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il se rapporte directement à lui. Il est le plus grand par ses mérites et par sa durée. Le commandement de la charité, cette vertu de charité, elle demeurera au ciel. Tandis que la foi et l'espérance, autre vertu théologale, disparaîtront lorsque nous entrerons dans le ciel. Voilà, mes bien chers fidèles, quelques considérations sur ce commandement de l'amour. Nous devons aimer. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui n'a vécu que d'amour pour Dieu, de nous aider à nous sacrifier, à tout sacrifier par amour pour Dieu, à savoir faire des sacrifices, à nous renoncer pour Dieu. Voilà, l'amour de Dieu n'est pas que dans la bouche, mais elle est pratique. Celui qui m'aime pratique mes commandements, et quelquefois les commandements de Dieu nous demanderont de nous renoncer. Renoncer à nos aises, renoncer à nos plaisirs, renoncer au monde, s'il faut choisir entre Dieu et tout le reste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Vexe mare regis coeum, fulget crucis mysterium, quod vitam mortem petulli, et morte vitam protulli. Quae vulnerata lance, mocone diro criminum, ut nos lavare solibus, manna habitunde sanguine. Impleta sunque conscinit, David fideli carmine. Discendo nationibus, regna vital ignodeus. Agote core fulgida, ornata regis purpura, electa dignos tibite, tam sancta membra tangere. Beata cuius vacis, pretium perpendis seculi, statera facta corporis, tulitque predantata li. Opus vespes unica, hoc passionis tempore, his ad auge gratia reisque dele crimina. Te fon salutis trinitas colla de Domini Spiritus, quibus crucis victoria largi